Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le Soudan est en proie depuis samedi à de violents combats. En cause, la rivalité entre deux puissants généraux. Plus d'une centaine de civils a été tué. Notre invité sera Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. Le Burkina Faso, une nouvelle fois endeuillé par deux attaques, 10 soldats et 32 supplétifs civils de l'armée ont été tués samedi et hier. Des hommages après la mort de Jacques Gaillot, l'ancien évêque d'Évreux a mené un long combat pour les mal logés, les sans-papiers et les réfugiés. Nous y reviendrons avec le coprésident du MRAP, Jean-François Quentin, le MRAP dont Jacques Gaillot était membre du comité d'honneur. Les résultats de 3 élections législatives partielles en France, les 3 sortants ont été réélus. Washington et Londres appellent à la cessation immédiate des violences au Soudan. Des affrontements entre groupes paramilitaires de l'armée régulière ont fait au moins une centaine de morts parmi les civils. La capitale Khartoum est le théâtre de tirs et d'explosions depuis 3 jours. Des combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et la puissante force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo. Regard sur le contexte politique dans lequel ces violences interviennent avec Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan.
On arrive à la fin d'un processus qui a démarré en avril 2019 avec la déposition du général Omar al-Béchir. Et depuis lors, il y a eu montée en puissance de ces forces régionales, forces supplétives, les forces de soutien rapide de Hemeti, qui n'est pas général. Ces gens-là n'ont aucune formation militaire, mais ce sont pour l'essentiel des chômeurs du Darfour, des régions périphériques ou même extérieures au Soudan. Il y a des gens qui viennent du Tchad, du Niger, etc., qui se sont retrouvés dans ces forces mercenaires qui ont été mises au service de l'Arabie Saoudite, puis du général Haftar en Libye. On a d'un côté une armée régulière qui a été formée, en tout cas ses cadres, en Égypte, et donc qui incarne, si vous voulez, une sorte de tradition militaire à la tête du Soudan. Et d'un autre côté, on a des forces qui ont été mises au service de ces forces régulières qui sont incapables de tenir le terrain au Darfour. Et désormais, ces forces se sont autonomisées, se sont livrées à différents trafics, à différentes activités. Elles contrôlent les migrants qu'elles taxent, elles contrôlent le commerce illégal ou légal en direction de la Libye, par exemple, et puis après de l'Europe. Et elle contrôle aussi les mines d'or du Soudan, c'est-à-dire la richesse principale du pays. Alors évidemment, le chef de ces groupes supplétifs a pris son autonomie et n'a jamais caché sa volonté de prendre l'ensemble du pouvoir au Soudan. Et c'est un phénomène finalement qu'on peut rapprocher de ce qu'on voit dans d'autres pays du Sahel, où on a des groupes qui sont formés à partir de chômeurs, à partir de jeunes, dans le cas du Soudan, qui sont dans les camps de déplacés. Qui était un peu paradoxal, puisque leurs parents ont été déplacés de force par d'autres groupes paramilitaires autrefois, dont ceux-ci sont les héritiers. Alors ces forces de déploiement rapide, avec leur chef Hemeti, veulent prendre le pouvoir au Soudan, prendre le pouvoir et écarter l'armée régulière. Donc on a là un affrontement existentiel entre deux groupes qui sont l'un et l'autre préoccupés d'abord par la mainmise sur les richesses du pays, puisque l'armée elle-même, du temps du général Omar al-Béchir, accaparait 80% du budget de l'État. Donc on a aujourd'hui un pays épuisé qui ne peut plus rien fournir et chacun de ces groupes donc est en compétition avec l'autre pour récupérer à la fois l'argent qu'on peut trouver sur la scène intérieure et aussi les aides internationales qui pourraient arriver éventuellement.
Donc, là, dans un contexte de grave crise politique à laquelle s'ajoute une grave crise économique.
Oui, où on peut prendre les choses à l'inverse, avec la crise économique est provoquée par le fait que on a affaire à des prédateurs et non pas à des investisseurs, des gens qui n'incarnent pas une image du Soudan, une volonté de construire un pays, mais simplement de s'assurer des revenus réguliers. Et c'était le pétrole jusqu'à l'indépendance du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan a pris son indépendance, on s'aperçoit que ce qui était prévisible est arrivé, c'est-à-dire qu'on a la même situation au Sud-Soudan, de groupes qui, sous couvert d'ethnicité, se battent les uns contre les autres pour accaparer la manne pétrolière. On n'a donc plus cette manne au nord. On a l'or à la place, puisque le Soudan est devenu le deuxième producteur d'or en Afrique, mais cet or part à Dubaï pour être raffiné, sans passer par la banque centrale, sans rien apporter au pays. Et il est aussi bien sa collecte, les orpailleurs, que les gens qui les contrôlent, sont sous la coupe de Hemeti, le chef de ses forces de déploiement rapide. Donc on a, d'un côté comme de l'autre, des gens qui n'ont absolument aucune intention de construire un État, mais simplement de s'assurer ses ressources, soit en se positionnant comme mercenaires, comme ils l'ont fait auparavant au Yémen, et puis après en Libye, du côté, encore une fois, du maréchal Haftar. Mais ces occasions s'épuisent aussi. Et les pays qui financent, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, finalement, arrivent aussi au terme de leur engagement au Yémen, et on réduit leurs demandes, si vous voyez, du côté de ces forces supplétives de Hemeti. Et du côté du gouvernement, eh bien, il y a une armée qui est, encore une fois, soutenue par l'Égypte. Donc on a après en toile de fond ce qui risque de se produire, c'est-à-dire une bipolarisation des soutiens, avec les États-Unis soutenant évidemment l'Égypte, hein, traditionnellement, militairement, de l'armée égyptienne, en fait, et donc par ricochet l'armée régulière soudanaise, peut-être. Et d'un autre côté, on a ces forces supplétives qui sont soutenues, elles, par la Russie, dans la mesure où elles ont ouvert la porte au groupe Wagner depuis la Libye jusqu'en Centrafrique, où les Russes sont extrêmement bien implantés. Donc on peut avoir d'ailleurs un double jeu, avec d'un côté Prigogine et le groupe Wagner qui soutiennent les rebelles, et puis le gouvernement russe qui soutiendrait plutôt l'armée régulière.
Le groupe Wagner, vous le soulignez, qui est aussi présent au Soudan depuis combien de temps ?
Alors il est présent au Soudan, on l'a vu lors de l'Intifada, si vous voulez, le soulèvement populaire du début de l'année 2019. On a vu qu'il y avait des gens qui parlaient russe, il y a eu des camions, il y a eu des encadrements fournis par Wagner à l'époque pour essayer de contenir la révolution démocratique, hein, si vous voulez, la transition démocratique, comme on l'a appelé, et qui n'ont pas réussi à le faire. Mais ils sont présents depuis la même époque dans l'est du Soudan, au Darfour, justement, à partir de la Libye, où ils étaient déjà implantés, et en vue d'aller vers les mines de diamants, les mines d'or de République centrafricaine, qui est un objectif stratégique pour la Russie, dans la mesure où c'est, comme son nom l'indique, le cœur de l'Afrique, et que ça permet à partir de là de rayonner dans tous les pays environnants. Mais quand je dis qu'il y a une dualité peut-être russe, c'est que le gouvernement russe de M. Poutine a signé un accord pour construire une base maritime sur la côte de la mer Rouge au Soudan. Donc c'est un autre dispositif, si vous voulez, c'est la projection de la Russie vers les mers chaudes à partir de Tartous en Syrie et puis d'intérêt qu'ils ont sur le canal de Suez. C'est une descente vers les mers chaudes qui se poursuit, donc un objectif stratégique de l'État russe qui est finalement complémentaire mais différent de l'activité du groupe Wagner qui, lui, vise à accéder au cœur de l'Afrique et à ses richesses.
Quelle est l'action de l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui au Soudan face à ces différentes crises ?
Elle est tout à fait décontenancée parce qu'on a vanté les louanges, et en France en premier, de cette transition démocratique sans rien faire pour l'appuyer, finalement, à part des décaissements d'argent international, mais qui n'ont pas suffi à juguler la crise économique dramatique dans laquelle le pays se trouve. Il y a ça d'un côté. D'un autre côté, la communauté internationale, elle est très divisée par d'autres crises, hein, les crises que ce soit l'Indo-Pacifique ou l'Ukraine. Et donc, il n'y a plus tellement de moteurs pour s'intéresser à ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, qui apparaît comme un embarras pour tout le monde, parce que, encore une fois, l'Union européenne et la France ont soutenu cette transition démocratique sans rien faire pour éviter que les militaires ne reviennent au pouvoir. Et finalement, le gouvernement militaire, on ne sait pas comment les choses vont tourner, mais on ne voit pas qui pourrait s'impliquer, à part l'Union africaine, qui a commencé à le faire, hein, puisque M. Mahamat Faki est intervenu d'ores et déjà. Mais sinon, du côté de l'ONU, c'est surtout des bonnes paroles, hein, et des condamnations qui émanent. Mais il y a des pays qui vont intervenir. On sait que l'Égypte, par exemple, est déjà sur la base de Méroé au nord de Khartoum et que son aviation est prête à intervenir. Alors, au départ, elle était là pour se projeter sur l'Éthiopie à cause de ce fameux grand barrage de la Renaissance qui lui pose des problèmes. Mais de ce fait, il y a une partie de l'armée égyptienne qui est là, qui était là aux frontières de l'Éthiopie aussi, où elle a participé à des escarmouches frontalières avec les soldats éthiopiens. Mais aujourd'hui, on peut imaginer que le gouvernement égyptien, si les États-Unis lui demandent, ou si Israël lui demande, intervienne au Soudan. Mais ça ne fera qu'empirer les choses, à mon avis, parce que la troisième force qui pèse, hein, et qui est présente, c'est la population, les civils, qui sont organisés depuis 3 ans, qui manifestent régulièrement pour demander à un État où la religion serait séparée de l'État, et puis pour demander un retour à un gouvernement civil, démocratiquement élu, etc., comme le Soudan en a connu à plusieurs reprises, à la suite d'intifadas populaires, comme ça, qui ont réussi à faire tomber des dictatures.
Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. La France a exprimé sa consternation face au décès dans ces violences au Soudan de plusieurs travailleurs humanitaires du Programme alimentaire mondial et de l'ONG Relief International. Paris appelle au plein respect de la protection due au personnel humanitaire. Le Burkina Faso est une nouvelle fois endeuillé par 2 attaques. 10 soldats et 32 supplétifs civils de l'armée ont été tués samedi et hier. C'est arrivé dans le nord du pays. Les autorités de transition ont décrété jeudi dernier la mobilisation générale afin de donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face aux attaques djihadistes qui frappent le pays. La semaine dernière, 44 civils avaient été tués lors de l'attaque de 2 villages du nord-est du Burkina, près de la frontière nigérienne. Un lourd bilan en Syrie. Après 2 attaques attribuées au groupe État islamique, 41 personnes, dont 24 civils, ont été tuées hier. Et les attaques ont visé des ramasseurs de truffes, des sables et des bergers. C'est arrivé dans le centre du pays, dans l'est de Hama. Les résultats des élections législatives partielles en France. Les 3 sortants ont été réélus dans la 2e circonscription qui regroupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La sortante, macroniste, Éléonore Carrois, a obtenu 62,44% des voix. Dans la 8e circonscription qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l'Italie, la Grèce et la Turquie, le sortant Les Républicains Meir Habib a récolté 53,99% des suffrages. Et dans la 9e circonscription, celle des Français établis au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, le sortant et candidat de la NUPES, Karim Bencher, l'a emporté avec 67,65% des voix. De nombreux hommages après la mort la semaine dernière de Jacques Gaillot, ancien évêque d'Évreux, déchargé de ses fonctions par le Vatican en 1995. Jacques Gaillot était âgé de 87 ans. Il a mené un long combat pour les mal logés, les sans-papiers et les réfugiés. Entretien avec le coprésident du MRAP, Jean-François Quentin, le MRAP dont Jacques Gaillot était membre du comité d'honneur.
Il fait partie de ces hommes d'église qui ont toujours partagé une vision humaniste de l'humanité. Et cette vision humaniste rejoignait tout à fait la nôtre sur beaucoup de points. Et nous avons partagé des combats et affiché notre solidarité. Je rappelle d'ailleurs que nous regrettons le décès d'un membre du comité d'honneur du MRAP. Il avait accepté d'être membre du comité d'honneur. Et dans le passé, il était déjà venu à certains de nos congrès et nous partagions de nombreux combats au profit de l'humanisme.
Et vous soulignez qu'aux côtés du MRAP, Jacques Gaillot a notamment défendu les démocrates algériens menacés par le fils. le Front islamique du salut.
Voilà, tout à fait. Parmi les combats, il y avait celui évidemment essentiel pour les droits de l'homme et pour la démocratie, y compris en Algérie. Et en effet, il avait été dans les défenseurs des droits de l'homme dans la terrible période des années 90 et de la guerre civile en Algérie contre le FIS. Alors il était surtout engagé dans la cause du logement et de l'hébergement des déshérités, parmi lesquels beaucoup d'étrangers, de sans-papiers. Il avait participé aussi à la défense des sans-papiers à nos côtés. Donc, on était assez liés. Alors, lui, et puis, je disais au début, tout un courant d'hommes d'église, de chrétiens. Il y a eu une époque où il y avait même des prêtres qui étaient membres du MRAP, parce que le racisme est une cause universelle qui dépasse telle ou telle idéologie. Donc, c'est un courant de l'Église avec lequel nous étions proches.
Jacques Gaillot qui défendait les plus démunis, les exilés, qui étaient aussi proches du peuple palestinien.
Ben voilà, il a adhéré à, disons, toutes les causes où il y avait des victimes, qu'elles soient individuelles, sans logement, ou des peuples qui n'avaient pas accès aux droits élémentaires d'un peuple, à l'indépendance, à leurs terres et au droit de vivre, dont en effet la cause palestinienne, tout à fait. Avec son décès, c'est la perte d'un homme, évidemment, mais aussi un peu la perte d'une cause, d'une vision de l'humanisme qui n'est pas forcément relayée par tout le monde actuellement. C'est pour ça que nous étions très attachés à sa personne et à ce qu'il représentait.
Le coprésident du Mouvement pour le Rassemblement et l'Amitié entre les Peuples, le MRAP, Jean-François Quentin. Quatre syndicats de cheminots ont appelé à poursuivre la grève dans les transports jeudi prochain et au-delà. Un appel après la validation partielle vendredi de la loi sur les retraites par le Conseil constitutionnel. La loi promulguée par Emmanuel Macron qui devrait prendre effet à la fin de l'année. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 18h pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.